Merci d'écouter RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour votre journal en français facile avec moi. Pour vous le présenter, Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Andréane, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de ce jeudi, la présidentielle aux États-Unis qui approche en pleine campagne. C'est vers les swing states que se tournent les deux candidats, les États dits clés dont le vote est indécis et qui peuvent tout faire basculer. Donald Trump est dans le Wisconsin ce jeudi. L'actualité, c'est aussi le nouveau camp de Moria en Grèce, un camp temporaire dans lequel les réfugiés ont commencé à être réinstallés. Et puis enfin, des manifestations en France ce jeudi. L'emploi était au cœur des revendications.
Un journal.
Le journal en français facile.
En français facile.
La présidentielle américaine, c'est dans un peu moins de 2 mois et une fois encore, ce jeudi, Donald Trump a critiqué le système du vote par correspondance.
Et pour la présidentielle du 3 novembre prochain, le vote par correspondance est particulièrement répandu en raison de la situation sanitaire. Ce système qui change selon les États et qui permet aux électeurs d'envoyer leur bulletin, pas forcément le jour du vote. Mais voilà, le président américain a écrit sur Twitter, je cite, avec cette méthode, le résultat de l'élection du 3 novembre pourrait ne jamais être déterminé avec précision ce que certains souhaitent. Fin de citation. Donald Trump qui une nouvelle fois se positionne donc contre le vote par correspondance. En tout cas, l'envoi des bulletins se poursuit aux États-Unis. Ce jeudi, ils ont commencé à être envoyés aux électeurs qui l'ont demandé dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. 3 États dont les résultats seront décisifs pour la présidentielle. Marie Normand, Donald Trump est dans le Wisconsin ce jeudi.
Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, 3 États cruciaux du Midwest qui peuvent, à quelques voix près, basculer côté démocrate ou côté républicain. En y obtenant une majorité des suffrages, le candidat remporte tous les grands électeurs de l'État. Il lui en faut au moins 270 pour entrer à la Maison-Blanche. Il y a 10 grands électeurs à récolter au Wisconsin que Donald Trump visite ce jeudi. En 2016, il avait, à la surprise générale, remporté cet État avec seulement 22 000 voix de plus que son adversaire Hillary Clinton. Le président s'était aussi imposé d'un cheveu en Pennsylvanie, 20 grands électeurs, un État traditionnellement démocrate que Joe Biden entend bien reconquérir cette année. Comme au Wisconsin, il est pour l'heure crédité de plusieurs points d'avance dans les sondages. Enfin, le Michigan, 16 grands électeurs, le berceau de l'industrie automobile américaine, lui aussi marqué par le déclin industriel, lui aussi traditionnellement bleu, mais qui avait basculé rouge républicain il y a 4 ans pour la première fois depuis 1988, là encore pour une poignée de voix.
Marie Normand, c'est un massacre qui n'avait pas encore été signé. C'est fait depuis aujourd'hui. L'organisation État islamique a revendiqué l'assassinat de 8 personnes, dont 6 Français. C'était le 9 août dernier à Kouré au Niger. 6 humanitaires français envoyés par l'ONG Acted, tués avec leur chauffeur et leur guide nigérien alors qu'ils visitaient une réserve de girafes.
Ils étaient des milliers à être sans abri depuis l'incendie la semaine dernière du camp de Moria, sur l'île grecque de Lesbos. Beaucoup ont commencé à rejoindre le nouveau camp dit provisoire, c'est-à-dire qui a été mis en place en attendant autre chose.
Nous étions libres, nous allons être enfermés à nouveau, a déclaré un réfugié soudanais à nos confrères de l'AFP. Selon l'ONG Médecins du Monde, 1500 personnes ont dormi dans les nouvelles installations la nuit dernière. Les autorités ont prévu le transfert des demandeurs d'asile sur le continent d'ici Pâques. En attendant, il n'y a pas d'autre choix que le camp, explique Anastasio Sifanti. Il est le directeur des opérations à Lesbos. D'après lui, les choses se passent plutôt bien avec les demandeurs d'asile.
Il y a des interprètes des organisations européennes qui vont les voir et les informent au sujet du nouveau camp. Et peu à peu, les gens s'y installent parce que leurs conditions de vie sont terribles. Il fait très chaud, ils n'ont pas d'eau, pas de sanitaire, il leur faut un endroit où vivre. De son côté, le gouvernement nous explique que cet endroit sera une solution temporaire. C'est pour cela qu'ils installent des tentes et non pas des préfabriqués. Ils veulent faire passer le message que ce camp sera opérationnel juste pour 6 mois. Nous défendons depuis longtemps l'évacuation du camp de Moria et des îles grecques en général, en raison du surpeuplement et des conditions de vie inhumaines qu'on y rencontre depuis 5 ans, depuis l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Mais en réalité, c'est très difficile à faire, surtout pendant cette période de pandémie de Covid-19 qui impose des mesures de santé publique spécifiques et qui interdit les grands déplacements de population. Et donc, il faut répondre aux besoins des gens, surtout en termes d'abri, de nourriture et d'hygiène.
Des propos recueillis par Juliette Gerbrand.
En Inde, 15 personnes ont été mises en examen pour complot criminel et sédition, c'est-à-dire une révolte, un soulèvement. Comprenez, ils sont accusés d'avoir organisé les violences entre hindous et musulmans, violences qui ont eu lieu en février dernier et qui ont entraîné la mort de 53 personnes.
Ces mises en examen sont dénoncées par une partie de la société civile. En effet, les personnes concernées sont des militants qui luttent contre la loi du gouvernement sur la citoyenneté, une loi particulièrement critiquée. Ce texte qui permet aux réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, sauf les musulmans, d'obtenir plus facilement la citoyenneté indienne. Alors, des mises en examen qui font donc réagir, car aucun hindouiste n'est concerné alors qu'il a été prouvé qu'ils ont participé aux violences. Sébastien Farcy.
17 000 pages. Le dossier de mise en examen se veut convaincant. La police de New Delhi y soutient la thèse que les violences communautaires de la capitale ont été préparées pendant des semaines par ces 15 militants et membres de l'opposition qui ont en commun d'être opposés à la loi controversée sur la citoyenneté. Ils sont ainsi accusés de complot criminel, sédition et meurtre. Cela permet à la police de New Delhi, qui dépend du ministère de l'Intérieur, d'entacher tout un mouvement pacifique qui représenta en fin d'année dernière la plus importante opposition populaire au gouvernement depuis 6 ans. Cependant, beaucoup dénoncent une enquête biaisée, comme l'avocat de la Cour suprême, Prashant Bhushan.
La police affirme que le groupe WhatsApp de solidarité aux manifestations a servi à comploter contre la nation. Mais il n'était question que d'actions pacifiques. Par contre, des membres du parti au pouvoir, comme Kapil Mishra, ont été filmés en train d'appeler à la violence contre les manifestants. Et ils ne sont même pas interrogés par la police. La police ne cherche pas à punir les comploteurs. Elle complote pour punir des manifestants pacifiques qui s'opposent au gouvernement.
Un ancien chef de la police vient de critiquer cette immunité dont jouissent 3 membres du parti nationaliste hindou. Ils avaient publiquement incité leurs partisans à attaquer ces manifestants. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
En France, des manifestations ont eu lieu aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats, la CGT, Solidaires, ainsi que plusieurs organisations lycéennes et étudiantes.
Et c'est la première mobilisation nationale de la rentrée. Il y a eu des cortèges à Paris, à Bordeaux, à Nantes ou à Rennes. L'idée était de protester contre les suppressions d'emplois, pour les hausses de salaires, alors que plusieurs plans sociaux ont été annoncés, le japonais Bridgestone notamment, qui va fermer l'an prochain son usine de Béthune dans le nord de la France où travaillent 863 personnes. À ce propos, d'ailleurs, le gouvernement français a dit qu'il réunirait lundi les élus et les syndicats à Béthune. L'emploi était donc au cœur des préoccupations aujourd'hui. Cécile Gondard-Lalanne, déléguée générale du syndicat Solidaire, explique les raisons de sa présence.
C'est de dire qu'on est toujours là, qu'on a encore et toujours les mêmes revendications. Retirer les réformes emblématiques de ce gouvernement, c'est-à-dire retraite à point et la réforme assurance chômage, ça c'est l'urgence. Autre chose, revaloriser les salaires. Il faut rediscuter de l'emploi et de la transition écologique en lien avec les emplois à créer. Et on redemande la réduction du temps de travail pour pallier au chômage massif et notamment des jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, pour pallier également à la sortie des quinquas qui doivent travailler encore 20 ans. Eh ben non, il faut réduire le temps de travail véritablement, repenser la question de l'industrialisation en France.
L'annonce à ce sujet hier de la fermeture de l'usine Bridgestone, c'est une motivation supplémentaire pour vous ?
Ah bah oui, nous on a une équipe là-bas qui est très forte, voilà, ils vont se battre. Et effectivement, cette annonce-là, elle est à l'image de ces sociétés qui restent dans une optique de faire des économies via une productivité pour filer des dividendes à leurs actionnaires.
Elle était interrogée par David Bachet, RFI, 22h10 à Paris. C'est ainsi que se termine ce journal en français facile, à retrouver sur notre site rfi.fr.
TV5.